L'invité du matin.
Avec Erectus, le dernier hiver, l'auteur de Lannion, Xavier Meller, met un point final à une saga mettant en scène l'humanité à des stades différents de son évolution. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors dans votre nouveau roman Erectus, le dernier hiver, on va retrouver les principaux personnages, comme Anna Meunier notamment.
Oui, alors pour rappel, le sujet du roman, c'est j'imagine que l'évolution va rebrousser chemin aujourd'hui. C'est-à-dire que les chiens redeviennent des loups, les baleines des mammifères terrestres, et puis les hommes des êtres préhistoriques, les Homo erectus du titre. Alors, ces Erectus, à la fin du tome 2, on les avait quittés sur le sentier de la guerre, et là, on les retrouve 3 ans après, ils ont conquis toute la planète. Enfin, ils ont conquis toute la planète. Non, ils ont conquis toute l'Afrique. Tandis qu'Anna Meunier, qui est mon héroïne, la paléontologue, elle est toujours dans le coma à la suite d'une blessure dont elle a récupéré à la fin du tome 2.
Ouais.
Et l'autre personnage important, qui est Lucas Carvalho, qui est un ancien agent de l'OMS, il est à Tahiti pour essayer de trouver un moyen chez des pêcheurs de perles locaux de trouver un métabolisme particulier, des capacités de guérison particulières chez ce peuple pour essayer de sauver Anna. Et alors qu'il est sur le point d'y arriver, il y a un événement très étrange qui se déroule sur Tahiti, c'est-à-dire tout le monde tombe subitement comme si tout le monde entrait dans le coma,
ouais.
Tombait dans le coma. Et en fait, c'est une espèce d'hibernation, c'est des gènes liés à l'hibernation qui se réveillent chez les gens comme ça subitement. Voilà un petit peu comment démarre cette aventure du tome 3 qui va surprendre le lecteur, j'espère, parce que elle va partir dans une direction complètement inattendue.
Mais oui, vous allez nous emmener à Paris, au cœur du Bureau international des poids et mesures, dont le rôle est de mesurer le temps.
Oui, alors ça, c'est un endroit un peu magique à Paris, enfin à Paris, à Meudon exactement. C'est un endroit qui collectionne tous les temps qui sont mesurés très finement avec des horloges atomiques qui fonctionnent avec des atomes et on les regarde très précisément. Et l'objectif de cette organisation, de cet institut, est de donner une espèce de tic-tac mondial. Alors pourquoi j'en parle dans Erectus? C'est parce que il va se dérouler quelque chose dans ce laboratoire. C'est qu'un jour, alors que toute la journée a commencé normalement, le temps qui s'affiche dans la salle de contrôle s'inverse, ralentit d'abord et puis tout d'un coup s'inverse. Donc et en fait, on se rend compte que c'est ça qui a déclenché les comas, tous les événements de Tahiti. C'est-à-dire, ouais, que à partir de ce moment où le temps général de toute la planète s'inverse, il y a des gènes en chacun de nous qui vont être stimulés, des gènes endormis qui vont être réveillés, et ça va donc déclencher des hibernations qui est aujourd'hui une espèce de théorie un petit peu discutée et controversée.
Ouais.
Mais en tout cas, on imagine que dans le passé, on a pu hiberner, enfin en tout cas une partie de nos lointains cousins néandertal a pu hiberner, et donc ces gènes dont on aurait hérité se réveillent. Donc tout se déclenche à partir du moment où il y a cette inversion du temps. Et alors que dans les deux premiers tomes, j'imaginais une forme d'inversion du temps aussi, mais chez les êtres humains, là tout d'un coup c'est toute la planète, ouais, qui subit. C'est-à-dire que les continents se mettent à se rapprocher pour former le gros continent, la Pangée, qui existait il y a des dizaines de millions d'années. Il y a le canal de Panama qui se resserre. Il y a tout un tas d'événements comme ça qui reflètent cette inversion du temps et qui va donner, donc c'est une malédiction, mais ça va donner aussi le moyen à mes héros de peut-être trouver l'antidote au fléau qui touche la Terre depuis 10 ans, qui est cette régression des espèces qui a transformé une partie de l'espèce humaine en être préhistorique.
Et donc là, il y a une solution qui va se dessiner.
Oui, la solution, elle se trouve sur une petite île en Méditerranée qui s'appelle l'île de Monte Cristo, d'où vient le fameux roman. Ouais. Et sur cette île, sur cette île, il y a des bruits un petit peu qui courent autour de cette île. Cette île a été achetée récemment par l'entreprise qui s'appelle Futura Bio, qui est un peu l'entreprise qui a été responsable de tout, qui de toute la régression, parce que c'est elle qui a lâché le virus dans la nature, le virus qui fait régresser les espèces. Et donc, pourquoi est-ce que Futura Bio a acheté cette île et pourquoi est-ce qu'elle y a investi des milliards de dollars récemment? Et surtout, question la plus importante, pourquoi est-ce qu'elle a acheté un manuscrit médiéval qui évoque un enfant sauvage qui a été recueilli au XIIIe siècle par l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et cet enfant sauvage a une silhouette très étrange, très primitive, et tout laisse penser qu'il aurait été le premier rictus, le premier être humain transformé à revenu à l'état préhistorique. Donc Lucas va être l'ancien agent de l'OMS va être invité sur cette île, et ce qu'il va découvrir, c'est que l'île abrite un secret.
Ouais.
Elle accueille une machine à voyager dans le temps qui va permettre à une équipe dont Lucas va faire partie d'explorer le passé à la recherche de cet enfant sauvage, parce que c'est sans doute lui qui détient la clé de cet antidote qui pourra sauver l'humanité.
Mmh.
Donc voilà, sur cette île, c'est une porte vers le passé. Et donc, ça veut dire que ce tome, je vous emmène vers certaines époques du passé,
ouais.
vers des apogées de la civilisation, vers le Mont-Saint-Michel à l'époque de la peste noire. On ira faire un tour en Florence à l'époque de la Renaissance. Donc mon thriller scientifique se matine un peu de thriller historique.
Mmh.
Et c'est un grand voyage spatio-temporel.
Alors je crois que vous avez aussi une surprise de taille en cours d'écriture.
Oui, alors ça c'était très rigolo parce que ce que j'aime bien c'est bâtir des thrillers sur des fondations véridiques, au moins crédibles. Et donc tout ce qu'on peut lire quasiment dans la rectus, en dehors de deux trois trucs fantastiques, très fantastiques et tout à fait fondés scientifiquement. Mais alors là, il s'est passé quelque chose, je n'espérais pas, c'était du pain béni pour moi, je n'en espérais pas autant. C'est-à-dire qu'on a fait une découverte il y a 2 ans, il y a une publication scientifique qui a rapporté la découverte d'un être préhistorique en Asie du Sud-Est qui collait tout exactement avec mon roman. C'est-à-dire que c'était une espèce préhistorique qu'on avait daté à moins 50 000 ans, mais en l'observant de près, on s'est rendu compte qu'elle possédait des traits très 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 anachroniques, très préhistoriques, très primitifs. Et les scientifiques ont dit texto dans la publication, c'est certainement un Homo erectus qui a régressé,
ouais.
qui a subi une réversion de l'évolution. Et réversion, c'est un peu le mot jargonneux pour les scientifiques, pour les paléontologues, pour désigner la régression. Donc c'était génial. En fait, il se déroulait dans la réalité ce que j'avais imaginé dans mon roman. C'était vraiment incroyable.
Ce livre signe-t-il la fin de votre trilogie sur la régression de l'humanité? Est-ce qu'on peut d'ailleurs plonger dans le dernier hiver sans avoir lu vos deux premiers ouvrages?
Oui, ouais. Oui. Alors c'était vraiment tout l'enjeu de l'écriture du début du roman, c'était de laisser les nouveaux entrants, d'accueillir avec bienveillance les nouveaux entrants, que tout le monde puisse prendre le train en marche. J'ai fait un gros effort pour rappeler les quelques enjeux des tomes précédents, et que ça soit une nouvelle aventure qui puisse prise. Qui puisse comme ça prise par des personnes qui avaient pas lu les précédents, et qui puissent surtout être comprises, mais surtout être les embarquer,
ouais.
Et donc qui se mettent à vibrer avec tout ce mélange de saveurs qui est à la fois, on parle d'évolution, à la fois c'est un thriller, c'est un roman d'aventure, c'est un roman d'amour, parce que beaucoup de choses tournent autour d'Anna et puis de son ancien compagnon Yann qui a été transformé en Erectus. Donc tout ça, voilà, j'ai voulu embarquer plein de nouveaux lecteurs, et puis pour un tome final, oui, pour le grand final, qui est, je l'espère, est encore plus encore plus plus nerveux et plus spectaculaire que les précédents, et qui mettra un terme à ce qui est devenu cette trilogie, qui n'était pas du tout prévu. À l'origine, ça devait être simplement un tome unique.
C'est puis... ça, oui. Au tout début, quand on avait fait la première, c'était un livre.
Ouais.
Et du coup, il y a eu une suite, puis donc c'est passé en trilogie. Comment vous avez vécu le succès de cette série auprès du grand public ?
J'ai été très surpris, agréablement surpris par l'accueil favorable qu'elle a reçu. C'est une histoire qui a parlé à tout le monde. C'est une histoire qui a parlé à tout le monde. Je le savais un petit peu parce que c'est une histoire qui parle de nos origines, quels ont été les jalons de la grande histoire de l'histoire de l'humanité. Et de revisiter ces êtres préhistoriques, nos anciens aïeuls, nos lointains aïeuls. Évidemment que ça nous intéresse tous. Mais ça reste une histoire, ça reste un roman, et puis ça reste un roman avec tout ce qu'il y a de, tout ce que ça intègre de fantastique, c'est-à-dire je les imagine, voilà, revenir aujourd'hui. Donc, les gens qui sont venus me voir sur les salons, c'était des gens de tous les horizons. C'était des gens qui aimaient, qui pouvaient être un peu mordus de science comme ça, un peu mordus d'évolution, mais pas du tout, pas seulement. Il y avait beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, déjà, tous les âges, que ça soit des adolescents, que ça soit des seniors, des gens plus âgés. Vraiment, j'étais surpris que tout, voilà, tout. J'ai pas eu un public. Je suis incapable de définir le public en fait que j'ai eu. Et je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, j'en suis content. Et je pense que c'est une histoire qu'on peut aborder par plein de facettes. Et je pense que c'est un petit peu ce qui a plu aux gens. Et j'espère qu'ils retrouveront tout ce plat, tous ces ingrédients d'un bon plat épicé dans ce troisième tome.
Et on en est où par rapport au film, à mettre cette trilogie en film? Est-ce qu'il y a des contacts?
Alors, il y a plein de producteurs qui sont intéressés, mais ça n'a rien donné de concret aujourd'hui. Évidemment que j'adorerais qu'il soit adapté, et c'est un projet qui s'y prête bien, parce que c'est très visuel.
Oui.
Tous les gens qui ont lu le bouquin, c'est l'une des premières impressions qui ressort. Alors évidemment, c'est un budget qui coûte très très cher. Je pense que c'est ça qui prennent un petit peu les producteurs à un moment donné. Une espèce de planète des singes revisitée aujourd'hui avec un soubassement scientifique. Donc c'est un projet qui coûte cher. Alors la BD, ça coûte cher, mais ça coûte un peu moins cher à à produire. Et il y aura une BD qui adapte le premier tome pour l'instant.
Ouais.
Et si le succès est au rendez-vous, les deux tomes suivants seront adaptés aussi. Et donc c'est une BD qui va être super et qui sort en début d'année 2023 normalement.
Très bien. Voilà.
Qui donnera matière à voir cet univers que j'ai décrit avec mes mots.
Eh ben merci beaucoup Xavier Muller d'avoir été ce matin sur Millennium. Donc Erectus, le dernier hiver, c'est déjà disponible depuis le 3 novembre.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir Xavier. Ouais.